Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Clémence Alezard, Mossy Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard, Anne-Sophie Pierry, réalisée par Alexandre Fougeron et mise en onde ce matin par Myriam Guillot. Deuxième épisode donc consacré à notre série sur les frontières disputées. Nous nous intéressons ce matin au Cachemire, une région au cœur des affrontements entre l'Inde et le Pakistan. Un Cachemire qui s'embrase de nouveau, notamment depuis les élections locales d'avril dernier. Le Cachemire, donc 70 ans d'affrontements entre l'Inde et le Pakistan.
Aujourd'hui, nous manifestons pour dire que l'Inde est un pays terroriste. Un détenu innocent ne peut être tué en prison si ce n'est dans un pays terroriste. L'Inde ne protège pas les détenus dans ses prisons. Nous appelons l'ONU à demander à l'Inde de libérer tous les détenus pakistanais du Cachemire.
C'était un assassinat ciblé, il n'y avait même pas de bureau de vote ici. Des injustices sont commises avec des Cachemiris innocents. C'est pour ça qu'on demande à être libéré de l'Inde depuis tant d'années.
On était juste en train de protester pacifiquement parce que nos frères se font jeter à l'intérieur de l'université. On est venu pour les soutenir, car on ne peut plus supporter cela. On est opprimé ici, ça fait un an qu'on est opprimé ici. On ne peut plus tolérer cette oppression, on ne peut plus tolérer tout ça.
Cachemiris, manifestants, protestants contre un État indien particulièrement violent à l'égard de leur communauté. Le conflit au Cachemire qui dure depuis 7 décennies et qui a repris de la vigueur sur la période récente. Il y a quelques semaines, en effet, à peine, lors des élections partielles, organisées début avril, les séparatistes cachemiris appelaient au boycott en signe d'opposition à l'oppresseur indien. Pourtant, un jeune homme, Farouk Dar, décidait de braver cet interdit. Se rendant aux urnes dans la capitale Srinagar, il croise sur sa route les forces spéciales indiennes qui tabassent alors l'intrépide et décident de l'utiliser en bouclier humain afin d'éviter les jets de pierre des manifestants, l'accrochant sur le devant de leur jeep, une pancarte autour du cou. Farouk Dar devient alors le nouveau visage de la lutte cachemiri et de la violence dont fait montre New Delhi pour y répondre. Rien que le 9 avril, jour des élections, donc, ce sont 8 personnes qui ont été tuées par la police. Ce différent qui façonne des relations houleuses entre l'Inde et le Pakistan depuis 70 ans, au détriment de la population cachemirie prise en étau entre ces deux pays, dans quelle mesure ce conflit est-il instrumentalisé de part et d'autre et à quelle fin? Et peut-on espérer des négociations et un retour à la paix? Voilà les grandes questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, deux invités. D'abord Charlotte Thomas, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice du programme Asie du Sud de NORIA, qui est un réseau de chercheurs. Vous avez donc réalisé une enquête auprès de Cachemiris pour comprendre justement ces enjeux autour de ce conflit. À vos côtés, Didier Chaudet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Vous êtes un spécialiste de l'Asie du Sud-Ouest et de la géopolitique eurasiatique et vous êtes directeur de la publication du CAP, qui est le centre d'analyse et de la politique étrangère. On va revenir d'abord sur le fait que je viens d'évoquer. Le mois dernier, il y a une vidéo qui déchaîne la colère chez les militants cachemiris. On y voit ce jeune homme attaché sur le devant d'un véhicule de la police, qui est torse nu, avec une pancarte autour du cou. Sur leur passage, les policiers crient aux manifestants que s'ils jettent des pierres, il va leur arriver exactement la même chose. Les policiers disent alors chercher à se protéger des manifestants hostiles à la tenue de ces élections législatives partielles. Charlotte Thomas, c'est un acte particulièrement abject, bien sûr, mais qui symbolise assez bien la manière dont les autorités indiennes gèrent, traitent cette question du Cachemire. Charlotte Thomas.
Oui, tout à fait. Alors, juste pour revenir un petit peu, cette image, en fait, a symbolisé la lutte parce qu'elle a été publicisée dans le monde et notamment par un article dans le New York Times. Mais après, il y avait déjà une révolte très, très importante des Cachemiris. C'est juste qu'elle nous est arrivée à travers cette image très forte, a fortiori dans une époque d'image très importante. Et que pour les Cachemiris, enfin, certains, en tout cas, que je connais, ont fait le rapprochement entre certaines pratiques de l'armée israélienne avec des Palestiniens. Donc, effectivement, oui, ça symbolise symbolise en fait cette politique actuelle de l'État indien, qui en plus s'est toujours attaché, enfin qui est paradoxal au sens où l'État indien a toujours considéré que la participation aux élections des Cachemiris dans les suffrages organisés au Cachemire était un gage en fait de leur reconnaissance du fait qu'ils appartenaient à l'Inde. Donc là, avoir pris quelqu'un qui allait voter en bravant justement, comme vous avez dit, les appels au boycott, selon d'autres lignes d'ailleurs, mais les appels au boycott des suffrages qui a été voté, et prendre cette personne ensuite pour donc la montrer un petit peu comme vous dites, comme bouclier humain, c'est effectivement symbolique de la politique actuelle de l'État indien avec les Cachemiris, qui considèrent juste plus vraiment comme des sujets que comme des citoyens à part entière. Et en même temps, c'est très contre-productif eu égard au discours même de New Delhi, qui est depuis l'indépendance, de prendre cette...
Et justement, ce discours, Didier Chollet, parce que ce qui a beaucoup choqué, c'est aussi que les principaux médias indiens ont justifié cet acte, considérant que, d'une certaine manière, il avait permis peut-être d'éviter de nouvelles violences entre la police et les manifestants cachemiris.
C'est tout le rapport à la population cachemirie qui, en effet, est en cause ici. Vous avez tout un arsenal législatif qui protège les services de sécurité indiens, qui peuvent agir, du coup, comme ils le veulent. Vous avez le code criminel article 144, vous avez le décret spécial pour les forces armées.
Et vous avez lois d'exception, c'est-à-dire qu'en gros, concrètement, pour poursuivre des policiers, il faut l'accord du ministère de l'Intérieur, ce qui n'est jamais fait.
C'est quasiment impossible, de fait. Donc, vous vous faites traiter, pas comme un citoyen, mais en effet comme un sujet, voire même pire, comme un sous-homme. Et c'est une vision des choses qui a été renforcée aussi par la montée en puissance du BJP, qui, pour un spécialiste du Pakistan, moi je suis plus sur le Pakistan que sur l'Inde, me fait beaucoup penser au Jamaat Islami, aux islamistes les moins durs, mais les plus violents dans les paroles.
On reviendra, évidemment, il faudra parler du Pakistan, parce qu'il faudra revenir aux racines de ce conflit, aux différends entre l'Inde et le Pakistan. Charlotte Thomas, lors des élections législatives, les appels au boycott, on l'a dit, ont été très importants, ce qui explique ce taux de participation extrêmement faible. On est aux alentours de 7%. Alors, évidemment, ce chiffre monte une forme de refus, de rejet de la reconnaissance de la souveraineté de l'Inde, mais c'est aussi peut-être un rejet de la classe politique cachemirie. Est-ce que c'est le cas, Charlotte Thomas? Et si c'est le cas, d'où viendrait ce défaut de légitimité de cette classe politique cachemirie?
Oui, parce que pour revenir un petit peu juste, en fait, les appels au boycott des élections de la part notamment d'une formation qui s'appelle la Hurriyat Conference sont fréquents, enfin sont à chaque scrutin, en fait, il y a un appel au boycott, y compris en 2014, aux élections législatives, pardon, enfin, qui ont amené au pouvoir Narendra Modi, alors que en fait en 2014 les Cachemiris se sont massivement déplacés par rapport à d'habitude aux urnes pour ne pas justement avoir le BJP au gouvernement au Cachemire. Donc là il faut voir que si cet appel au boycott a été suivi, c'est parce qu'il fait suite aux événements sur lesquels on viendra, qui ont débuté, enfin la nouvelle vague d'insurrection qui a débuté en juillet 2016, et c'est effectivement pour donc protester contre le gouvernement central et, comme je vais revenir également sur la classe politique cachemiri, puisque donc la classe politique cachemiri, qui peut être en gros schématisée par trois grandes formations, donc la National Conference, qui est un parti historique, le PDP, qui est à l'heure actuelle au pouvoir avec Mehbooba Sayed, qui est la ministre en chef du Cachemire, et les forces autonomistes, donc qui sont de la Hurriyat Conference, sachant que ce parti n'est pas considéré par New Delhi comme un acteur politique et un interlocuteur politique valable. Donc là, en boycottant ce scrutin, effectivement, il y a un signe très fort qui est aussi adressé au PDP, donc à la ministre en chef actuelle, Mehbooba Mufti, qui est extrêmement très peu appréciée par la population cachemirie, puisqu'en fait, elle permet les exactions qui est en cours aussi par l'armée indienne depuis le juillet 2016, et elle n'est pas du tout... Elle reprend en plus le discours du pouvoir central de New Delhi en posant les enjeux à la population en termes de nationalisme ou de militantisme violent, ce qui est beaucoup plus complexe. Et donc effectivement, il y a un signal très fort contre elle, puisque en plus, ces élections qui étaient des élections partielles visaient à remplacer son poste à elle, puisqu'elle est devenue ministre en chef.
On reviendra évidemment sur les formes que prend ce séparatisme dans le paysage politique. Mais je voudrais revenir, Didier Chaudet, sur effectivement la période récente. Parce que, je le disais, depuis un an, deux ans, depuis surtout l'année dernière, 2016, on sent une réelle montée en puissance des violences au Cachemire. Dans les années 2000, on avait vu une situation, disons, un peu plus calme, en tout cas par rapport à la décennie précédente des années 90. Comment comprendre ce regain de tension? Quelles en sont les causes, Didier Chaudet?
Tout dépend du centre indien. C'est lui qui a la force de pouvoir agir au Cachemire et aussi de pouvoir parler au Pakistan. Parce que la situation au Cachemire, c'est une discussion à trois. Inde, pouvoir central, Pakistan, pouvoir central et la population cachemirie. Quand vous avez une possibilité de dialogue, comme on l'a eu notamment sous Musharraf, les choses peuvent s'apaiser. Quand vous avez une situation aussi qui fait que les Pakistanais ne veulent pas forcément soutenir une activité locale contre l'État ou de façon trop poussée, dans ces cas-là, il est possible de discuter. Mais tout dépend de l'attitude indienne par rapport au Cachemire et au Pakistan. Vous avez eu des tensions à la fin des années 2000 qui étaient liées à la montée du djihadisme pakistanais qui a essayé de déstabiliser la relation Inde-Pakistan, fin 2001, en 2008 également. Et d'un autre côté, vous avez aussi cette montée de la vision des choses BJP, d'une vision des choses une-tiktonienne, clash des civilisations, musulmans contre hindous, qui a fait que la vision du Pakistan et la vision du Cachemire, de mon point de vue, s'est durcie avec le temps du côté indien, rendant le dialogue très difficile et amenant la population locale à la révolte. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une révolte de Cachemiri. Les Pakistanais n'ont rien à voir là-dedans.
Charlotte Demain.
Oui, c'est ça. Je voulais juste préciser qu'effectivement, les choses se tendent. Enfin, c'est un petit peu mon prisme, moi, cachemiri. Au-delà de l'international, les choses sont très tendues en ce moment suite donc à la mort d'un combattant Burhanwani en juillet 2016, ce qui a mis vraiment le feu aux poudres à partir de juillet, parce que là, aujourd'hui, on a une centaine de morts. Mais malgré cette impression un petit peu de calme qu'il y avait vu des pouvoirs centraux au début des années 2000 et vers avant 2010, les Cachemiris vous expliquent que cette insurrection de juillet 2016, en fait, elle se greffe sur des griefs qui n'ont jamais été réglés, qui datent de 2008, 2009 et 2010, avec des événements de violence aussi très forts à ce moment-là. Au-delà, je veux dire, c'est important aussi de voir le Cachemire dans sa dimension autonome, au-delà de le voir aussi uniquement entre deux puissances.
Vous parliez de Burhanwani.
آج کافی عرصے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا.
C'est justement la voix de cet homme qu'on entend à l'instant. C'est là un extrait de sa dernière vidéo, une vidéo d'un militant 2.0, si on peut dire, de cette cause cachemiri, Burhanwani. C'est l'un des nouveaux visages de cette cause cachemiri. Un militant assassiné donc en juillet 2016 et dont les funérailles interdites par les autorités ont considérablement exacerbé ce sentiment indépendantiste. Charlotte Thomas, qui est cet homme? Quelle était sa vision de la lutte cachemiri et en quoi sa mort peut-être a modifié aussi la nature de la contestation au Cachemire?
Alors en fait, Burhanwani, c'est un jeune homme de 21 ans donc qui avait pris le maquis en 2011. Donc déjà, on peut s'arrêter sur sa durée de vie relativement longue pour un militant armé puisqu'il a été assassiné tué en 2016. Et en fait, c'était ce que disent les Cachemiris encore une fois, c'est que ils le considèrent comme le nouveau visage du militantisme armé, puisqu'à la différence des années 90, c'était un Cachemiri jeune éduqué qui en fait a renoncé à faire des études supérieures dans une école d'ingénieur, je crois, qui a refusé de faire ses études supérieures pour s'engager dans la militance armée suite à une énième altercation avec les forces de l'ordre indiennes à l'époque en 2011, où son frère et lui avaient été humiliés, mis à genoux et je crois mis nus ou des choses comme ça. Enfin, et donc c'est un petit peu l'étincelle qui a fait qu'il a pris le maquis. Et il était le nouveau visage de la militance parce que, comme vous le disiez, c'était un 2.0, c'est-à-dire qu'il était extrêmement actif sur les réseaux sociaux. Il combattait à visage découvert. Et il était très connu, en fait, dans la vallée. C'était pas du tout comme, de ce que m'en disent encore une fois les enquêtés cachemiris, c'était pas du tout quelqu'un qui opérait de façon un petit peu aussi comme un petit peu un bandit et qui allait aussi harceler les cachemiris eux-mêmes qui ne prendraient pas assez part à la lutte selon lui.
Il avait pignon sur rue.
Voilà, c'est ça. Et il était très apprécié, en fait. Beaucoup en parlent. Alors, quand je dis beaucoup en parlent, au-delà d'être complètement d'accord avec son mode d'action, mais tous avaient une certaine, comme ils le disent, forme d'affection pour lui, parce que ça pouvait être leur frère et leur grand frère.
Et comment est-ce qu'il voyait le règlement de la question cachemiri ? Est-ce qu'il était pour une indépendance totale ? Est-ce qu'il était pour une autonomie élargie ? Est-ce qu'il était, parce que certains le sont, pour un rattachement au Pakistan ?
C'est là où c'est plus nébuleux, parce que Burhan était le leader des Hizbul Mujahideen, qui est une formation qui a été créée dans les années 80, mi-80, pardon, avec le soutien actif du Pakistan et dont la ligne officielle est le rattachement au Pakistan. Mmh. Ce qui peut être compliqué, mais lui, dans ses vidéos, en fait, il a toujours... Alors, c'est aussi pour ça qu'il rassemblait large, pour le dire vite, parce qu'il restait assez flou, quelque part, assez nébuleux, parce qu'il parlait d'Azadi. Donc, Azadi, ça veut dire liberté. Mais une fois qu'on a dit ça, on a pas mis grand-chose dedans. Voilà, exactement. Ouais. Et quand on discute avec les Cachemiris, d'ailleurs, on s'aperçoit que tous ont une vision un peu différente de ce qu'est l'Azadi. Et en termes de positionnement politique, il a jamais vraiment expliqué, enfin, il s'est jamais prononcé pour un rattachement pour le Pakistan. En revanche, on sait que sa formation avait vocation, être par nature favorable au rattachement avec le Pakistan. Mmh. Il y a aussi une dimension très religieuse, parce qu'il a un registre très religieux, ce qu'il faut prendre avec mesure, surtout à notre époque actuelle, mais parce que lui aussi parle de djihad, etc. Mmh. Or, quand on essaye de décortiquer, quand on parle avec des Cachemiris comment eux perçoivent ça, ce qu'ils perçoivent comme djihad, en fait, c'est une lutte pour l'indépendance. Mmh. Donc, c'est aussi à prendre avec mesure avec ce langage, ce vocable très... religieux.
Oui, d'ailleurs, il était là. Voilà. On l'entendait dans la vidéo. Il commence par Bismillah Rahmani Rahim.
Oui, mais ça, à la limite, bon, c'est pas forcément parce qu'il dit Bismillah que c'est un.
Didier Chaudet, est-ce que justement le fait que, comme nous le dit Charlotte Thomas, il n'avait pas de vision claire, c'était un peu flou, finalement, ce qu'il pensait faire, ce qu'il voulait faire de ce Cachemire, est-ce que c'est pas aussi là une des failles des Cachemiris et de la lutte cachemiri?
Je pense qu'au contraire, ça peut être une de leurs forces. Parce que la rébellion passée qui avait été largement soutenue par le Pakistan des années 90, qu'il ne faut pas confondre vraiment pas avec le Pakistan actuel, c'était une rébellion qui s'appuyait aussi beaucoup sur des gens qui avaient combattu en Afghanistan, qui avaient une vision idéologique extrêmement dure. Là, ça n'est pas le cas, ce sont des enfants du pays qui se révoltent. Parce qu'ils ont été humiliés. En effet, Burhan Wani avait été tabassé avec son frère. Et quand il avait réussi à s'échapper, il s'était tourné vers les soldats. La légende le dit en disant « Je me vengerai, je ne laisserai pas passer ça ». Son frère a continué à rester dans une certaine légalité, ce qui n'a pas été son cas. Et il faut bien voir que ces rebelles prennent souvent des armes à des soldats indiens eux-mêmes pour aller se cacher ensuite. Donc en fait, il représente la réaction la plus extrême d'une population qui a été mise en général sous une telle pression qu'elle ne peut que réagir. Du côté pakistanais, encore une fois, j'insiste là-dessus, aucun soutien. En effet, très important d'insister sur cette révolte-là, en effet, sur le caractère local de la chose. Vous retrouverez un soutien de cœur. Récemment, vous avez eu un petit pakistanais de 12 ans qui vient du Azad Cachemire, donc Cachemire lui-même, qui a essayé de passer la frontière pour défendre ses frères. Donc on a aussi un élan du cœur du côté pakistanais qui pourrait à terme transformer le soutien à la rébellion, mais pour l'instant on a une rébellion locale et à mon avis ça fait vraiment sa force. Vous n'avez qu'une centaine, 100-150 combattants, vous en aviez presque 10 000 paraît-il du temps où les Pakistanais soutenaient vraiment la révolte, et du temps où les Pakistanais soutenaient vraiment la révolte, les djihadistes étaient tellement agressifs face à la population que c'est ça aussi qui a fait perdre la rébellion face aux Indiens. Alors, ça n'est plus le cas aujourd'hui.
Il y a effectivement des Pakistanais, quelques Pakistanais qui vont soutenir, qui traversent la frontière et qui vont soutenir la révolte cachemiri, mais il y a aussi des gens qui font le trajet inverse, qui se rendent au Pakistan, mais aussi beaucoup qui vont du côté de New Delhi, qui quittent le Cachemire, Charlotte Thomas, et qui vont jusqu'à New Delhi, ce qui ne veut pas dire qu'ils abandonnent totalement le combat, la lutte. Au contraire, c'est ce que vous avez remarqué, Charlotte Thomas, dans vos entretiens, c'est que vous êtes rendu compte qu'en réalité, l'exil agissait comme une sorte de révélateur de l'identité cachemirienne.
Oui, en ça, c'est pas bon sur le phénomène diasporique, c'est assez fréquent, mais effectivement, déjà les Cachemiriens que j'ai rencontrés moi à New Delhi sont tous, enfin font leurs études ou travaillent à New Delhi, mais ils retournent très très fréquemment au Cachemire tous les mois ou deux mois, quelque chose comme ça. Et en fait, ils m'expliquent que pour eux, les plus durs, en tout cas de ceux que j'ai rencontrés, qui sont militants politiques mais pas encore armés, enfin en tout cas pas armés, expliquent que pour eux, en fait, venir à New Delhi et utiliser les ressources de l'État quelque part, de l'État indien, c'est en fait utiliser son ennemi pour mieux se retourner après contre lui. Donc c'est pas du tout antithétique le fait de venir à New Delhi. Beaucoup préfèrent partir en dehors de l'Inde, mais c'est une question monétaire aussi qui se pose. Mais non, c'est pas du tout antithétique. J'ajoute juste aussi que sur le recours à la violence, il est aussi favorisé par le fait que depuis les années 90, les syndicats étudiants politiques sont interdits à l'université du Cachemire. Ils ont été réintroduits très brièvement entre 2007-2008, puis resuspendus. Ce qui fait que la population non plus n'a pas de voix politique, enfin la jeunesse n'a pas de voix politique dans laquelle elle peut s'exprimer. Et aussi, comme je disais, la Hurriyat Conference n'étant pas reconnue comme un interlocuteur politique, toute possibilité aussi de discours plus politique conventionnel est quand même relativement bridée par New Delhi.
Quittons un peu la période contemporaine, remontons un peu dans le temps parce que c'est absolument essentiel pour comprendre vraiment ce conflit. Ce qu'on entend là, c'est une archive de 1947. Muhammad Ali Jinnah, le fondateur du Pakistan, chef de la Ligue musulmane de 1913 jusqu'à l'indépendance le 14 août 1947, le premier gouverneur général du pays de l'indépendance jusqu'à sa mort. Didier Chaudet, les Cachemiris sont évidemment des victimes, on le comprend, collatérales d'un conflit qui oppose le Pakistan et l'Inde depuis la partition et donc depuis l'indépendance du Pakistan en 1947. Au moment de l'indépendance, les régions à majorité musulmane vont rejoindre le Pakistan, alors que les régions à majorité hindoue deviennent indiennes. Mais le Cachemire va là constituer une exception. L'État du Cachemire est alors assez essentiellement peuplé de musulmans, mais il est dirigé à l'époque par un prince hindou qui, après moult tergiversations, va choisir de rallier l'Inde. Mais en réalité, dès le départ, il y a des velléités indépendantistes. Le choix de l'Inde est un choix par défaut, en réalité.
Ah, totalement. Et là, pour le coup, on voit l'impact de la géopolitique, l'impact des forces extérieures. Pour Nehru, pour New Delhi, tenir le Cachemire, c'était aussi une façon de présenter l'Inde comme un État laïque, pas forcément comme un Hindoustan, comme il y a un Pakistan. Mais du côté pakistanais, c'est ne pas avoir le Cachemire, c'était se voir nier encore plus le fait de défendre les musulmans du sous-continent, ce qui était tout de même l'idée. Un chercheur américain a parlé de sionisme musulman, il y a quelque chose comme ça dans la logique de la construction pakistanaise. Donc des deux côtés, la situation était strictement inacceptable. Le Pakistan a pu récupérer une petite partie Cachemire et les territoires du nord qu'on appelle aujourd'hui Gilgit-Baltistan, qui étaient également historiquement rattachés au Cachemire et qui aujourd'hui sont le fait de tout un débat sur lequel on pourra revenir plus tard. Mais malgré tout, y compris pour les Pakistanais les plus libéraux, y compris pour les Pakistanais qui veulent la paix avec l'Inde, la cause cachemiri n'est pas oubliée. C'est un petit peu leur Alsace-Lorraine.
Et pour aussi comprendre ce choix de rejoindre finalement l'Inde, il faut aussi rappeler qu'à l'époque, il y a des raids de tribus venues du Pakistan. Et donc le Cachemire se rapproche de l'Inde pour précisément contrer ces attaques. Alors dès 1948, Didier Chaudet, la région fait l'objet d'une guerre. C'est la première guerre entre l'Inde et le Pakistan, qu'on appelle la première guerre du Cachemire justement. L'objet du litige précisément est surtout peut-être la situation dans laquelle on va se retrouver au moment du cessez-le-feu, le 1er janvier 1949, pour cette région-là.
vous avez une division qui ne satisfera pas du tout, bien entendu, le côté pakistanais. Pour les Pakistanais, cette guerre était profondément injuste. Le partage au niveau des armes, notamment, n'avait pas été fait de leur point de vue équitablement, de l'armée du Raj entre l'armée pakistanaise et l'armée indienne. Et cela explique toute la situation pakistanaise actuelle, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez une armée qui reçoit autant d'argent de l'État, qui reçoit la part du lion du côté du budget pakistanais. Pendant les premières années d'abord, ça s'est calmé par la suite, mais ça allait dans les premières années jusqu'à 70% du budget. Donc très vite, le Pakistan est devenu un territoire qui appartenait à une armée plus que le contraire. Et en général, du côté pakistanais, ça a aussi très vite posé la question de l'identité. Nous sommes censés représenter les musulmans d'Asie du Sud. Vous avez déjà une partie des musulmans qui sont à l'intérieur de l'Inde. D'autres musulmans seront très vite perdus avec la guerre de 1971. Mais le cœur du problème, déjà, c'est le Cachemire. Comment se présenter comme le pays qui protège les musulmans d'Asie du Sud si vous n'avez pas le Cachemire?
Oui, puis il faut préciser aussi qu'il y a le ressentiment à l'égard de l'Inde qui va naître de cette décision de finalement ne pas organiser un référendum d'autodétermination qui avait été promis par New Delhi.
Ah, totalement. Ici, ensuite, du côté de l'Inde, on peut évoquer toujours différentes raisons. Le fait que pour que ce type de choses puisse avoir lieu, il faut que le Pakistan libère aussi sa partie du Cachemire. Les Indiens continuent de parler d'un Cachemire occupé par les Pakistanais. Du point de vue indien, ils veulent récupérer l'ensemble de ce qui était le Cachemire, y compris le Gilgit-Baltistan. D'ailleurs, c'est une question très importante du côté de la RSS, du côté de ce qu'on peut appeler rapidement l'extrême droite indienne. Donc des deux côtés, on a des arguments pour expliquer le statu quo, le blocage. Et quand vous avez en plus des tensions au niveau local, ça rend toute discussion sur ce sujet, comme sur le reste, strictement impossible.
Charlotte Thomas, sur les racines historiques de ce conflit.
Je repensais aussi juste une petite insert, mais sur le fait du nationalisme hindou, ce qui est paradoxal, c'est qu'on a déjà eu un gouvernement nationaliste hindou entre 1999 et 2004, et que paradoxalement, des choses avaient avancé à ce moment-là, puisqu'en fait, les tenants de la ligne dure étant au pouvoir, ils avaient intérêt aussi à montrer au pouvoir à New Delhi, je veux dire, ils avaient intérêt à montrer à l'opinion publique qu'eux arrivaient à avancer sur le dossier. Donc là, on n'est plus du tout sur cette dynamique avec le BJP actuellement, mais c'est intéressant de mentionner cet aspect. Sur les racines historiques, oui, tout à fait. C'est-à-dire que une chose aussi sur la dénomination qui est intéressante, c'est-à-dire que ce que les Pakistanais appellent l'Azadi Cachemire, donc le Cachemire libre, pour les Indiens, c'est le Cachemire occupé par le Pakistan. Ce que les Indiens appellent le Jammu et Cachemire, pour les Pakistanais, c'est le Cachemire occupé par l'Inde. Donc on voit qu'en fait, il y a deux récits identitaires qui s'opposent, comme vous le rappeliez, Didier Chaudet, qui s'opposent complètement avec cette construction du Pakistan comme pays des musulmans et cette opposition au sécularisme, enfin la laïcité indienne, qui ne pouvait pas se concevoir sans le raccrochement au Cachemire. Juste quand on disait le Cachemire s'est raccroché à l'Inde, c'est Hari Singh, enfin le Maharaja de l'époque, qui a choisi le rattachement sans trop consultation populaire.
Donc c'était vraiment
quelque chose du haut, quoi.
On va revenir sur cette question du nationalisme. Je poursuis un tout petit peu parce que je parlais donc de cette première guerre du Cachemire. Pendant des années, donc, on se fait la guerre. Il y a aussi août 65 qu'il faut mentionner où là, le Pakistan lance l'opération dite Gibraltar. Des soldats déguisés en civils infiltrent le territoire contesté. L'Inde repère ses infiltrés et les affrontements à la frontière vont s'enchaîner. Ça, c'est la deuxième guerre du Cachemire. Et puis, entre 1984 et 2003, les deux pays s'affrontent sur le théâtre de guerre le plus haut du monde, le glacier de Siachen, qui est donc à plus de 6 000 mètres d'altitude. En 2003, on a la signature d'un nouveau cessez-le-feu, mais en réalité, les armées indiennes et pakistanaises continuent de s'y faire face, ce qui explique que parfois, on rend visite justement aux militaires. C'était le cas de Narendra Modi, au moment où il a été à la tête du gouvernement, où il est élu Premier ministre. Écoutez.
Chers jeunes, आप सबको बड़ा सरप्राइज हुआ होगा कि मैं आज आपको बिना बताए आपका मेहमान बन गया लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच मेहमान कैसे बन सकता हूं और इसलिए
voilà alors. un discours de Narendra Modi devant les soldats sur ce glacier de Siachen, on est en 2014, malheureusement il n'y avait pas de traduction, donc on ne peut pas vous offrir une traduction, mais peut-être rappeler quelques éléments, Didier Chaudet, le fait que Narendra Modi est un nationaliste hindouiste, il faut le rappeler, se souvenir aussi qu'avant d'être Premier ministre, il était gouverneur d'un État dans lequel il y avait eu des violences extrêmement meurtrières à l'égard de communautés musulmanes, des violences pour lesquelles d'ailleurs on l'a soupçonné d'une certaine complicité, ou en tout cas d'un certain laxisme à l'égard des groupes nationalistes qui en étaient à l'origine. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas réputé pour sa bienveillance à l'égard des musulmans.
Bon, il a essayé de se rattraper, semble-t-il, dans les dernières élections, en essayant de jouer la division entre chiites et sunnites. Donc il semblerait que du côté des musulmans chiites, il ait réussi à trouver quelques soutiens. Mais il est bien clair que sa vision de l'islam est une vision, montre bien qu'il appartient au camp identitaire du BJP. Historiquement, au BJP, vous aviez des hommes d'affaires, des capitalistes qui se posaient du coup au Congrès sur des questions économiques, et vous aviez les identitaires. Lui, c'est clairement un identitaire. Oui, quand il était au Gujarat, en effet, on peut parler de violence, on peut parler de pogrom. Et sa vision du Cachemire aujourd'hui s'explique par cette approche plus générale des musulmans. Quand il dit à la jeunesse du Cachemire, faites le choix entre le terrorisme et le tourisme, ça montre, c'est d'une violence et c'est d'un mépris. C'est prendre toute une population, exactement ce que fait l'État en général, prendre toute une population et la juger comme potentiellement terroriste. Quand vous écoutez ce qui a été dit par des ministres du BJP, par des acteurs clés de cette force de droite en Inde, vous avez vraiment le sentiment que cette population est coupable pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle fait. Et c'est ce qui risque de nourrir un certain extrémisme au Cachemire à terme.
Charlotte Thomas, pourquoi est-ce que le Cachemire est une région... Et puis je vais vous laisser... J'ai vu que vous vouliez intervenir, je vous laisserai librement, mais je voudrais quand même vous poser cette question. Pourquoi cette région est aussi décisive pour Narendra Modi? Alors évidemment, les frontières, c'est toujours un élément central pour la souveraineté des pays, on l'entend bien. Mais au fond, pourquoi est-ce que c'est... plus que ça pour Narendra Modi et pour l'Inde peut-être plus généralement.
Oui, pour revenir justement sur la personnalité de Narendra Modi, parce qu'il s'avère qu'avant de travailler sur le Cachemire, j'ai fait ma thèse sur les pogroms anti-musulmans de 2002 au Gujarat. Donc effectivement, ce sont des vrais pogroms. La complicité du ministre en chef, c'est-à-dire Narendra Modi à l'époque, est avérée. C'est pour ça que d'ailleurs qu'il n'avait pas eu de visa. Son visa avait été suspendu par les États-Unis et l'Union européenne. Et ça, c'est très important parce qu'il a fait des déclarations du genre à l'époque tous les musulmans ne sont pas terroristes, mais tous les terroristes sont des musulmans. Et ça, c'est vraiment une psyché. Enfin, c'est comme ça qu'il conçoit les choses, avec une ligne extrêmement dure. Donc, sur son programme à lui, il y a aussi une dimension économique qui lui a permis d'arriver au pouvoir, qui est importante. Mais sur ce programme identitaire, comme on le disait tout à l'heure, enfin, historiquement, le Cachemire fait partie de l'ADN de l'Inde séculariste, dont aujourd'hui, on s'aperçoit que ce sécularisme, même si c'est toujours le même mot qui est employé, ce sécularisme, en fait, a tendance à être utilisé par les nationalistes hindous contre les minorités, donc musulmanes, mais aussi chrétiennes, d'ailleurs. Et donc, ce qu'on appelle sécularisme, aujourd'hui, en fait, c'est la projection d'une Inde principalement hindoue, comme le veut, par exemple, un des projets qui la réforme du code civil, enfin, bref. Donc, c'est vraiment projeter cette Inde hindoue. C'est pour ça que ces rébellions... ce qu'ils considèrent aujourd'hui comme des rébellions sont extrêmement, enfin, ils retirent toute notion politique, c'est-à-dire comme vous le citiez, enfin Didier Chaudet le rappelait, il explique il y a récemment que les gens ont le choix entre le tourisme et le terrorisme, sans donc prendre en compte une demi-seconde que ces gens sont des militants politiques. Alors certes avec des moyens non conventionnels, mais ce sont des militants politiques. Or ça, c'est absolument pas du tout dans le logiciel, ça ne rentre pas dans son logiciel. Et une chose aussi intéressante...
Mais pardon, il y a une raison pour ça. C'est-à-dire qu'on n'envisage absolument pas de négociation parce qu'on n'envisage absolument pas de se séparer du Cachemire.
Oui,
parce
ça,
que précisément, c'est se séparer du Cachemire, ça serait aussi faire fi de cette idée d'une Inde multiethnique, multiconfessionnelle, etc. Donc c'est toute l'idée de l'Inde qu'il y a derrière tout ça.
Oui, c'est ça. Alors, étant donné, comme je disais, que cette idée de l'Inde évolue avec ce sécularisme qui est de plus en plus considéré comme un Hindu Rashtra, en fait, un royaume hindou. Mais il y a aussi donc une dimension concurrentielle avec le Pakistan, c'est-à-dire pas laisser le Pakistan avoir la main là-dessus. Ce qui est intéressant aussi d'ailleurs, ce qui est à noter, c'est que le Pakistan a toujours internationalisé la cause en parlant aux Nations Unies et dans les arènes internationales, alors que l'Inde a toujours considéré, et c'est toujours le cas aujourd'hui, que c'est un conflit interne qui ne concerne uniquement le gouvernement indien, et que de fait, en fait, c'était juste comme s'il y avait une rébellion dans un département français qu'on essayait de calmer, mais pas du tout avec une dynamique, sans vraiment prendre en compte cette dynamique autonomiste, voire séparatiste.
Précisons quand même que le Pakistan ne s'est pas contenté d'aller en parler à la tribune des Nations Unies, mais a assez directement soutenu l'insurrection, fournissant même jusqu'à des armes.
Mais je parlais de la posture, de la projection du conflit.
Je précise pour les auditeurs. Didier Chaudet.
Ce soutien par des armes, c'était par le passé surtout, parce que j'insiste sur le fait que les djihadistes qui causaient des problèmes au Cachemire dans les années 90 sont ceux qui tirent sur les soldats pakistanais et ou afghans aujourd'hui. Donc ils ont pour une bonne partie oublié le Cachemire, ça n'est plus leur cause principale. Ils suivent en cela une logique djihadiste qui a été élaborée par Al-Zawahiri, notamment du côté d'Al-Qaïda, disant que la priorité en Asie du Sud, c'est de briser l'État pakistanais. Aujourd'hui, le Pakistan est d'autant moins impliqué directement qu'il se concentre sur le corridor économique avec la Chine et que ça les amène notamment à faire des choses qui ne plaisent pas forcément aux autonomistes et aux séparatistes cachemiris indiens, notamment transformer le Gilgit-Baltistan, qui faisait partie du Cachemire historique, en province à part. Et le problème de transformer cet endroit en province à part, c'est que ça retire toute légitimité à l'idée d'une sorte de grande réunification plus tard, une sorte de grand Cachemire, y compris à l'intérieur du Pakistan ou non. Donc le parti de Burhan Wani à l'époque, il y a en fait une semaine maintenant, a réagi assez violemment à cette proposition pakistanaise qui va dans le sens des demandes indiennes dans ce jeu cachemiri, dans cette demande chinoise, je veux dire. Dans le jeu cachemiri, vous avez de plus en plus, d'un point de vue géopolitique aussi, l'ombre de la Chine qui se profile.
Charlotte Thomas, 2014, le PDP donc gagne les élections au Cachemire, qui est donc le parti cachemiri, le PDP, alors que le BJP de Narendra Modi, lui, gagne les élections au Jammu. Donc aujourd'hui, le gouvernement de l'État Jammu et Cachemire est dirigé par une coalition entre les deux. Ils travaillent ensemble normalement, sauf qu'en réalité, le programme du PDP, il s'est totalement effacé au profit de celui du BJP.
Oui, et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure quand vous m'interrogez sur la non-confiance des Cachemirans à la classe politique. C'est-à-dire que le PDP, pendant les élections de 2014, a fait toute sa campagne contre le BJP, a expliqué, parce que la constitution indienne a une disposition spéciale qui s'appelle l'article 370, qui donne des pouvoirs en fait une plus grande autonomie au Cachemire au sein de la constitution indienne. C'est le seul État indien qui jouit de ses prérogatives. Dans les faits, cet article est de moins en moins, est moins mis en œuvre depuis les années 90, où on a mis à la place, en place, comme on l'expliquait tout à l'heure aussi, des dispositions spéciales de l'armée qui donnent les pleins pouvoirs à l'armée. Donc le PDP a fait toute sa campagne pour renforcer cet article 370 et contre les pouvoirs spéciaux de l'armée. Le PDP arrive premier en 2014 au Cachemire, et en fait décide de faire une alliance avec le BJP, ce qui là encore une fois suscite une colère monstrueuse de la part de la population cachemirie. Et aujourd'hui, donc, le candidat de l'époque était Mufti Sayed, le père de l'actuel ministre en chef, qui est mort en janvier 2016. S'en est suivi un psychodrame de plusieurs semaines où Mehbooba Mufti ne savait pas si elle allait reprendre la tête du pays, de l'État, pardon. Aujourd'hui, c'est elle la ministre en chef, mais en fait, elle est complètement, et ça se voit beaucoup dans des caricatures ou sur les profils Facebook des Cachemiriers ou leur Twitter, elle est complètement décrédibilisée et elle est la marionnette, pardon, de New Delhi. Elle n'a pas de, elle reproduit en plus les discours de Narendra Modi, puisqu'elle a aussi elle-même répété ce choix entre le terrorisme et le tourisme. Donc elle ne défend pas en fait l'agenda cachemiri.
Est-ce qu'on n'est pas là au cœur du problème cachemiri? C'est-à-dire qu'effectivement, on revient sur cette question du manque de légitimité de la classe politique cachemiri. En 2002, il y a des élections au Jammu et Cachemire et qui là, pour le coup, sont gagnées par les autonomistes. C'est Mufti Mohamed Sayed, fondateur du Jammu and Kashmir People's Democratic Party, qui devient le gouverneur de l'État, qui parvient même à imposer auprès New Delhi des négociations sur le Cachemire. Alors, soit elles ne vont pas aboutir, mais la discussion va se mettre en place. Aujourd'hui, on a le sentiment que c'est plus du tout possible. Et d'une certaine manière, pardon de vous reposer l'action, mais il y a une vraie responsabilité des politiques cachemiries, Charlotte
oui,
Thomas.
Oui, c'est ça, parce que le PDP...
Je me fais l'avocat, pardonnez-moi.
C'est tout à fait ça. Parce que le PDP qui arrive au pouvoir en 2002, c'est donc le père, ce Mufti Saïd est le père de l'actuel maire Mahbooba Mufti. Alors lui aussi, il y a eu beaucoup d'articles sur lui parce qu'il est très peu apprécié également par les Cachemiris, puisque la création de son parti déjà à la fin des années 2000 et au début des années 2000 pardon est vue comme en fait une création indigène mais pourrant être un nouveau canal de New Delhi, mais un petit peu plus discret. Donc, il n'y a pas de grande crédibilité. Il y a aussi un énorme problème qu'on trouve partout en Inde, mais qui est particulièrement développé au Cachemire, qui est la corruption, l'absence de mise en œuvre de politiques publiques vraiment efficientes, parce qu'il y a une jeunesse Cachemire aussi très qualifiée, qui ne trouve pas d'emploi. Donc, effectivement, cette classe politique est décrédibilisée, à l'exception près que les seuls qui pourraient avoir une sorte, en tout cas, qui n'ont pas encore le même discrédit aux yeux de la population que le PDP et la National Conference, c'est la Oriat Conference, qui, eux, ne sont pas considérés comme des interlocuteurs valables par New Delhi.
Didier Chedet, dernier mot avant d'évoquer la résistance culturelle avec un autre invité.
Le problème ici, c'est qu'il faut vraiment associer au même niveau la situation au niveau local et la situation d'un point de vue géopolitique. C'est tant que l'Inde n'est pas prête à faire un pas vers le Pakistan pour avoir une paix généralisée qui passera forcément par le Cachemire. Quand le Cachemire va bien, le reste va bien. Si vous avez la possibilité notamment de faire une paix via le corridor Chine-Pakistan, l'Inde s'y associant, là les choses peuvent avancer. Les Cachemiris seuls se trouvent face à des États. Le Pakistan veut rester une puissance régionale, l'Inde veut devenir une grande puissance. Face à de telles forces, la population locale peut agir, mais de façon relativement limitée. The time has come to set off the bombs, so pick up your guns, beat the drum. Whatever holds you back, knocking and commanding music is the way. Sing and strum, pull your lungs out. Go on and scream, that's how you be heard. This ain't the time to sleep, now wake up. Open your eyes, take a deep breath and realize that time to talk is over. It is time to do with whatever you got to make it through. Et en plus, c'est magnifique. The Time Has Come par Ali Safoudine et Ovais Ahmad, un rappeur cachemiri qui chante en anglais et un artiste traditionnel qui chante, lui, en ourdou. On va retrouver un nouvel invité, Raphaël Gotcho. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur, journaliste indépendant et vous avez réalisé une enquête sur la génération émergente dite de la résistance culturelle. Parce que malgré la montée en puissance des manifestations, des violences qui les entourent, on assiste à une véritable explosion de ce nouveau militantisme qui prend forme dans le domaine de la culture, dans le domaine de la musique, mais aussi dans le domaine de l'information en général. Vous dites que depuis 2010, je vous cite, la résistance numérique et culturelle connaît une vraie effervescence permettant d'échapper à la répression physique et au contrôle omniprésent.
Alors oui, c'est tout à fait ça. Depuis 2010, donc depuis que Internet est accessible à beaucoup dans la vallée, donc toujours dans les centres urbains, principalement à Srinagar et dans d'autres grandes villes, elle a émergé de plein de façons différentes. On a commencé à faire du journalisme. Les Cachemiris ont commencé à prendre les choses en main au niveau de l'information, c'est-à-dire qu'avant c'était surtout des observateurs étrangers ou indiens qui venaient raconter ce qui se passait dans la vallée. Et maintenant, des Cachemiris ont eu accès à Internet, donc ils ont pu faire des blogs, des journaux en ligne. Je pense notamment à Fahad Shah qui a fait The Cashmere Wala, qui est un journal où des articles sont publiés en anglais, donc ce qui a la volonté d'aller chercher le lecteur international pour montrer ce qui se passe au Cachemire. Il y a eu aussi des initiatives artistiques, notamment, là vous écoutez du rap cachemiri, ça a commencé avec MC Cash qui avait donné un espèce d'hymne aux protestations qui s'étaient passées en 2012. Voilà, ça a continué. Là, c'est d'autres rappeurs qu'on a écoutés maintenant. Il y a eu d'autres choses qui ont été faites avec plus ou moins de succès. Notamment, il y avait une galerie d'art qui avait été ouverte par Syed Mujtaba Arezi. Malheureusement, elle n'est pas restée ouverte très longtemps, environ un mois. Donc voilà, maintenant, je pense que la résistance culturelle a un tournant aussi au Cachemire, on peut en parler.
Et elle révèle aussi quelque chose d'important, parce que vous parliez du The Cachemire Wallah, donc créé par ce journaliste natif de la région, Fahad Shah, qui est donc un journal en ligne en anglais. On parlait de ses raps, eux aussi, en anglais. Il faut voir qu'il y a aussi derrière tout ça une stratégie, c'est-à-dire que cette bataille de la langue, elle vise aussi finalement à atteindre un public plus large, un public mondial, en l'occurrence à atteindre un public occidental. C'est un enjeu central que celui de donner un écho à l'international à ce conflit.
Tout à fait. Alors, il faut voir que les Cachemiris prennent beaucoup comme exemple la lutte palestinienne. C'est-à-dire que dans les rues du Cachemire, on peut souvent voir des graffitis qui disent « Free Gaza » ou « Free Palestine », des choses qui font référence à ce qui se passe dans cette région du monde. Et donc, il y a vraiment une volonté de montrer au monde, puisque Cachemire n'est pas souvent traité dans les médias internationaux, en tout cas, pas beaucoup en France, un peu plus en Angleterre, un peu plus aux États-Unis. Mais donc, il y a une volonté de montrer au monde ce qui est en train de se passer. Et ce qui se passe souvent, c'est que quand on parle du Cachemire, c'est parce que, pour être un peu vulgaire, ça pète, quoi. C'est parce qu'il y a eu des attentats où il y a eu des militaires qui se sont fait tuer. Donc là, il y avait une volonté de montrer qu'il y avait d'autres choses qui sont faites et qu'il n'y a pas que la résistance armée, quoi. Il y a aussi la résistance culturelle.
Vous restez avec nous, Raphaël Gautreau. Je me tourne vers vous, Charlotte Thomas. Vous avez eu l'occasion de vous rendre compte comment effectivement cette résistance prenait aussi forme dans le domaine de la culture. Et d'une certaine manière, la contre-offensive est aussi à l'œuvre du côté de l'Inde, qui a très bien compris que dans ce cyberespace, dans cet Internet, dans ces réseaux sociaux, cette lutte s'organise. Et donc, on réagit. Alors, c'est soit en bloquant les réseaux sociaux, soit peut-être aussi en diffusant du contenu informationnel. La bataille culturelle a commencé aussi de l'autre côté.
Ah oui, enfin dans la presse indienne, j'étais par exemple à Delhi en septembre-octobre, donc pendant que l'insurrection en cours continuait, il y a quand même donc avec toujours ce mythe que le Pakistan, pour ce mythe, je te parle de cette révolution, enfin cette insurrection, que le Pakistan est derrière tout le monde, enfin tous les militants. Il y a quand même un présentateur très connu indien qui a fait une pétition en ligne pour déclarer le Pakistan état terroriste, étant donné ce qui se passait au Cachemire. Donc tout est toujours projeté, enfin c'est un récit très important dans les médias mainstream indiens. Le Cachemire est vraiment projeté, oui, comme quand il y a des révoltes, c'est l'acte de terroriste et point barre. Enfin, il n'y a pas du tout. Et sur le volet culturel, on parlera des handicraft, enfin des choses un peu anciennes en bois, très jolies, mais jamais d'MC Cash ou des galeries d'art qui dénoncent les exactions de l'armée. Ça,
vous inquiétez pas, on va l'entendre, MC Cash, on l'a prévu pour la fin de l'émission. Raphaël Gautreau, vous aviez rencontré notamment pour votre article un jeune musulman, Syed Mujtaba Rizvi, qui a créé une galerie d'art contemporain dans la ville de Srinagar. Les autorités lui avaient mis au départ à disposition un immense bâtiment de près de 450 mètres carrés, sauf qu'elles l'ont finalement fermé. Il a donc dû se réfugier, vous le racontez dans votre article du Monde Diplomatique, c'était en septembre 2016, hein, dans un petit café où il essaye de faire vivre un peu cette culture cachemirie. Et ce qu'il vous dit, c'est que, je le cite, « l'art cachemirie peut exister tant qu'il ne se revendique pas comme tel ». C'est quoi la limite? C'est quoi la limite à ne pas franchir?
Quand Mujtaba Syed Rizvi a ouvert cette galerie d'art, il y a clairement une menace pour l'État indien, parce qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer. Il va pas être tout seul à mettre ses œuvres dans la galerie. Ça va attirer d'autres artistes, d'autres jeunes de la vallée qui vont vouloir eux aussi faire partie du mouvement. Et ça, c'est un vrai danger pour l'État indien, parce que ça va montrer que l'art cachemiri aujourd'hui, il s'articule autour de la résistance. Il parle beaucoup des exactions de l'armée indienne, il parle beaucoup des meurtres, des viols, des disparus. Et donc là, aujourd'hui, l'art cachemiri, c'est un art qui parle de ces choses-là. C'est, comme disait Charles Thomas, c'est la vision par rapport à la soie, le cachemire qu'on connaît, quoi, par rapport à l'artisanat, elle est dépassée. C'est pour ça que ces jeunes, ils créent une nouvelle forme d'art, un art qui les reflète eux, qui parle d'eux.
Oui, il peut y avoir de l'art, mais il ne faut pas qu'il y ait d'artistes. C'est-à-dire qu'avec toujours cette idée qu'il faut présenter les Cachemiris comme des personnes extrêmement violentes, qui n'ont pas en réalité de projet politique, mais dès qu'on voit apparaître des figures artistiques, là ça pose problème, Charlotte Thomas.
Oui, et puis sur les jeunes, c'est projeté aussi comme des jeunes désœuvrés qui sont au chômage, donc plutôt que de s'ennuyer à fumer des cigarettes à l'Alchok, ils vont aller en lancer des pierres sur les policiers. Enfin, je caricature vraiment à peine quand je parle de cette projection. Du coup, vous m'interrogez sur quelque chose qui m'est sorti de l'esprit.
Je ne sais plus, mais du coup j'en profite pour vous poser une dernière question qui va nous permettre d'ouvrir pour une future émission qu'on fera un autre jour, qui est que, finalement, c'est quoi l'identité cachemirie ? En quoi la culture cachemirie se distinguerait-elle de la culture pakistanaise, de la culture indienne, si tant est qu'on puisse en parler au singulier ?
Alors, déjà par rapport à ce que, d'un point de vue politique, ce que moi, les Cachemiris m'ont raconté, en fait c'est vrai qu'il y a plus de facilité à se décrire contre quelque chose que en plein, en fait, une identité en opposition, elle est assez évidente à avoir. En positif, elle est plus difficile. Mais globalement, ce qu'ils essayent de mettre en avant quand on discute avec eux, c'est une nourriture très singulière. Alors, c'est pas du tout de l'ordre de l'anecdote, parce que la nourriture est très importante. Donc, une forme de nourriture singulière, un thé qui est différent, qui est le noon chai. Enfin, c'est un thé avec du plus salé que le thé qu'on a dans l'Interland. Et puis, une forme un petit peu rêvée et réinventée, mais de syncrétisme passé avec un islam, un cachemiri très inclusif, avec des pratiques aussi plus syncrétiques liées au soufisme, etc. Donc quelque chose, une vallée un peu d'opulence pour faire une image un peu mythique qui est mise à mal aujourd'hui.
La gastronomie, c'est très très loin d'être anecdotique.
Oui, c'est pour ça que j'insistais. This song right here is dedicated to my people in Kashmir. Yeah. They say when you run from darkness, all you seek is light. But when the blood spills over, you will stand and fight. Threats of deceit worn around the world of plebiscite by treacherous puppet politicians who have no soul inside. My paradise is burning with troops left loose with ammo, who murder and rape and hide behind a political shadow. Like a casino, human life is thrown like a dice. I will summarize atrocities to the resurrection of Christ. Can you hear the screams?
Ce titre, c'est I Protest de MC Cash, justement. Charlotte Thomas, vous avez eu l'occasion, je crois, de rencontrer. Hein. C'est une véritable star. Que dis-je, c'est une star ? C'est un mythe ?
Oui, oui. Enfin, avec Raphaël Gaucho, d'ailleurs, on a réussi à le faire venir en France à la fin de 2016, où il avait donné un concert dans une structure assez petite, puisqu'il y a aussi des problèmes liés aux autorités indiennes. Donc, on l'avait rencontré. Et puis, au-delà de ça, quand on fait des entretiens avec les Cachemiris, entre 18 et 45 ans, tout le monde connaît MC Cash. Qui est avec I Protest le visage de la musicale de la révolution. Until my freedom has come, I protest for my brother who's dead. I protest against the bullet in his head. I protest, I will throw stones and never run. I protest until my freedom has come. Democratically held elections, now that's completely absurd. I will tell you some stuff that you obviously never heard. A 10-year-old kid. Merci beaucoup à tous les trois. Raphaël Gaucho qui était avec nous par téléphone. Je rappellerai son enquête qu'on peut retrouver sur Le Monde Diplomatique de septembre 2016. Merci à vous, Didier Chaudet, d'avoir été avec nous. Également, je rappellerai que vous êtes directeur de la publication du Centre d'analyse et de politique étrangère. Et un grand merci à vous, Charlotte Thomas, nous avons accompagné également, directrice du programme Asie du Sud de NORIA, qui est un réseau de chercheurs. Merci infiniment à tous les trois. Passé de presque 53 minutes, exactement l'heure de retrouver Le Monde des Idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Florian.
Alors en mai 1967 paraissait en librairie L'écriture et la différence, le premier de Jacques Derrida et La marche d'André Pierret de Mandiargue. Le premier allait marquer la philosophie pour plusieurs décennies, le second emportait le prix Goncourt. Quelle époque !
Ah oui, il y a des décennies comme ça. Les 60s ont probablement constitué l'un des points culminants de la créativité en Occident. Le contexte international avait pourtant tout pour rendre les contemporains anxieux. Les années 60 s'ouvrent en effet sur la crise des missiles de Cuba. On n'est jamais passé aussi près de la guerre nucléaire entre les deux superpuissances de l'époque. Et elle se termine avec l'écrasement du printemps de Prague par les chars russes et l'enlisement américain au Vietnam. Pourtant, les 60s restent à juste titre dans la mémoire collective de ceux qui ont eu la chance de les vivre comme une époque bénie. L'optimisme ambiant autorisait l'audace. Alors les éditeurs s'apprêtent à célébrer l'an prochain le 50e anniversaire de mai 68, mais le mois prochain, un autre 50e anniversaire donnera lieu, lui aussi, à des célébrations. C'est le 1er juin 1967, en effet, que les Beatles mettaient en vente l'album le plus ambitieux de leur carrière, Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band. Et avec le recul, on peut dire que ce fut l'un des événements culturels majeurs de la deuxième moitié du XXe siècle. Alors le magazine intello britannique Prospect organise chaque mois un échange d'arguments entre deux personnalités sur le sujet brûlant du moment. Et bien dans le tout dernier numéro, celui de ce mois-ci, la question posée est « Sgt Pepper mérite-t-il tout ce battage ?» Réponse positive pour John Harris, journaliste au Guardian, négative pour Victoria Segal, critique musicale et littéraire du Sunday Times. Gauche versus droite, ce serait simplifié à outrance, même si la première se montre critique de la seconde se montre critique de la génération du baby boom et de son leg. Et voici un résumé des deux positions antagonistes. D'abord, première divergence quant au sens historique de l'album des Beatles. John Harris. Si l'album représente un moment essentiel dans l'histoire moderne de l'Occident, c'est parce qu'il enregistre la césure entre deux époques, je le cite. « À ses meilleurs moments, vous pouvez y entendre à la fois la fin de l'Angleterre en chapeau melon, impérial et moisi, celle des fanfares en uniforme, et la naissance de la modernité dans laquelle nous vivons encore aujourd'hui, émancipée, auto-expressive, chaotique. » C'est un mélange étonnant d'avant-gardisme et de nostalgie de la culture populaire anglaise. N'oublions pas que Penny Lane et Strawberry Fields Forever, ces chansons de la ressouvenance, ont été enregistrées lors des mêmes sessions et devaient figurer à l'origine sur l'album. Si A Day in the Life est le chef-d'œuvre qu'on a dit, c'est précisément parce que ce morceau réussit la greffe de l'expérimental sur l'attendrissement envers le passé victorien. Victoria Segal, ce fut moins la rampe de lancement vers une nouvelle ère que le condensé d'une humeur d'optimisme de courte durée, puisqu'elle devait cesser rapidement à la fin de la décennie. Quant au contenu, pour Victoria Segal, Sgt Pepper est un objet fabriqué de manière capricieuse avec beaucoup trop de moyens. La créativité de John Lennon ne pouvait se déployer librement dans l'atmosphère d'un énorme studio où George Martin les faisait travailler toutes les nuits comme de véritables salariés. Du coup, l'album signe le début de l'emphase musicale qui ne sied pas à l'esprit du rock. Il inaugure une grandiloquence qu'on retrouvera ensuite avec The Dark Side of the Moon de Pink Floyd ou plus récemment avec OK Computer de Radiohead. Or, à la même époque, naissait une nouvelle scène, dit-elle, autrement plus authentique et audacieuse parce que maigre et tranchante, avec le psychédélisme en Grande-Bretagne ou le Velvet Underground à New York. Réponse de John Harris, oui, les Beatles ont bénéficié de semaines entières de studio, de techniciens les plus pointus de l'époque, mais c'est précisément la raison pour laquelle ils ont pu faire franchir à la pop music le passage à l'âge adulte. Ils ont libéré la pop de ses limites. Victoria Segal, elle écrit si bien qu'elle mérite d'être traduite telle qu'elle. Sgt Pepper dit quelque chose comme « un temps splendide et garanti pour tous ». Mais c'est une promesse qui peut sonner comme une menace, une exigence que tout se conforme à cette gaieté cosmique imposée et à cet optimisme collectif sur commande.
Et cet anniversaire va donner lieu, on l'imagine, à une réédition enrichie de l'album, Brice ?
Oui, Florian, on nous promet une édition de luxe pleine de prises alternatives, avec notamment des versions inédites de Strawberry Fields et de Penny Lane, opportunément rajoutées à un album où ces chansons manquaient. Mais je signale à nos auditeurs que l'ensemble des stations de Radio France leur a concocté un événement très particulier pour célébrer cet anniversaire et que, bien sûr, France Culture sera associée aux cérémonies. Sous quelle forme, c'est encore une surprise, bien dans l'esprit de l'album.
J'adore, Brice, quand vous parlez du monde des idées par le prisme de l'histoire de la musique.
J'y reviendrai. Si
Sgt Pepper, vous l'aviez acheté au moment de ça. Vous l'aviez acheté en vinyle.
Oui, absolument. Ah. Absolument. Bon, ouais, je suis de cette génération. Nous l'avons. Rien vous cacher.
Merci beaucoup, Brice Coutierrier. On se retrouve évidemment demain dans un très court instant sur France Culture. On retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.